CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Maru dans tous ses états sur CFM Rodez 107.9 toute la semaine, nous mettons en avant le quartier des Ambergues, rue de Bonald, rue de Lamberg et place de la Cité, avec notamment un plateau ce mercredi après-midi de 14h à 18h, où vous êtes tous invités à nous rejoindre pour prendre la parole, pourquoi pas, puis aussi gagner des cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui connaît bien le quartier, qui va nous apprendre plein de choses. Il s'appelle Jean-Philippe Savignoni. Bonjour monsieur Savignoni.
Bonjour.
Alors Jean-Philippe Savignoni, bon, pas mal d'entre vous, je pense, le connaissent déjà. Il est guide conférencier et compteur de patrimoine à Rodez Agglo, c'est comme ça qu'on dit ?
Rodez Agglomération, c'est ça.
Rodez Agglomération, oui, pardon, c'est vrai. J'essayais de faire attention avec les mots. Jean-Philippe Savignoni, donc vous proposez des visites guidées, des conférences tout au long de l'année sur Rodez, mais aussi les autres communes du Grand Ruthénois. Première question, Savignoni.
Oui, je sais. C'est le sud, sud, c'est plus au sud de l'Aveyron.
Oui.
Ça s'écrit comme Bousquet, mais il y a un i à la fin. Et c'est la Corse. Effectivement, mon père était Corse et ma mère Lorraine. Donc, vous voyez, à quoi ça peut donner naissance.
Ah bah, et du coup, vous êtes né en Aveyron ou vous
êtes je suis né en Aveyron, voilà.
D'accord.
Je suis né à Rodez.
Donc, un grand amoureux de Rodez, du Ruthénois. Une passion et un intérêt qui vous est venu comment?
Qui m'est venu, on fait pas beaucoup de rencontres dans sa vie, hein, et je crois que j'ai rencontré le patrimoine en faisant un travail d'utilité collective.
Vous avez fait une bêtise?
Non, je sais, oui. Non. Bon, peut-être que d'avoir raté un peu mes études comptables et financières dans lesquelles, là aussi je faisais des comptes, mais pas les mêmes. Et je me suis donc retrouvé au service animation de la ville de Rodez. Et en charge de faire visiter la petite chapelle de l'ancien collège des Jésuites, la chapelle royale. Et là, j'ai senti une vocation de raconter l'histoire des gens à travers les pierres. Et puis de parler aux gens, aimer les gens.
Ce que vous faites donc tout au long de l'année. Jean-Philippe, on va nous s'intéresser évidemment, à l'occasion de cette semaine Maru dans tous ses états, au quartier des Ambergues, que nous avons réunis dans un ensemble, place de la Cité, rue de Bonald, rue de Lamberg. Est-ce que déjà ce rassemblement, il est de bonne aloi, il a une vérité historique, patrimoniale ou pas?
Oui, il a une vérité historique. Il y avait deux Amberg, la rue de Lamberg gauche et la rue de Lamberg droite. Aujourd'hui, donc, la rue de Bonald et la rue de Lamberg. Alors, Amberg, ça veut dire donc Auvergne, c'est-à-dire la montée depuis le nord, donc depuis l'Auvergne, les voyageurs pendant des siècles montaient par la rue Saint-Cyrus, donc passaient par le faubourg, et remontaient par la rue Saint-Cyrus, se trouvaient devant une porte fortifiée, la porte des Ambergues, puisque Rodez était tout fermé de murailles depuis le XIVe siècle. Et donc, c'était la grande entrée de la ville jusqu'à la place. Et la première place qui apparaissait, c'était la place de la Cité. Ça veut dire que là, les hôtels, les charrons, tous ceux qui s'occupaient des chevaux, des attelages et des hommes étaient là. Donc, il y avait évidemment des cafés, des auberges. Et c'était la première entrée de Rodez, donc très significative.
Première entrée de Rodez, et vous avez évoqué le XIVe siècle. Mais Rodez, moi, pour avoir suivi quelques conférences, Rodez est bien plus ancien. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans les rues les plus anciennes de Rodez.
On est sans doute dans des occupations beaucoup plus anciennes, mais il faudrait soulever les maisons du quartier et les propriétaires, ça ferait des histoires. Mais quand on a fait le parking des remparts, alors parking des remparts, où il y a une partie des remparts qui sont du Moyen-Âge, mais la partie la plus basse est gallo-romain. C'est un mur qui est gallo-romain et qui fait plus de 4 mètres de large et que les Romains avaient monté là vers le 4e siècle pour se protéger des invasions dont ils sentaient évidemment l'imminence. Mais quand on a fait le parking, dans les années 70, on a découvert de très très belles mosaïques qui sont visibles au musée Fenaille. Mosaïques qui ont 2000 ans et là on serait dans les premières racines. Mais quand on continue à creuser, sans doute on arriverait chez les Gaulois, chez les Ruthènes. On est vraiment sur cette éminence à plus de 600 mètres qui va donner naissance donc d'abord à un habitat gaulois, puis romain, puis on arrive jusqu'à aujourd'hui.
Alors on est avec vous Jean-Philippe Savignoni aujourd'hui pour peut-être inviter ceux qui nous écoutent à aller déjà traîner marché, hein, du côté de la rue de Lamberg, de la rue de Bonal d'une part, et puis d'autre part, marcher, se balader, mais en levant un petit peu la tête, ce qu'on fait pas forcément, parce que, on va le voir avec vous, j'imagine qu'il y a des choses particulières à voir et qui peuvent nous échapper si on n'y fait pas attention. On commence par quoi, la rue de Bonal, la rue de Lamberg?
On peut commencer par la rue de Bonal. Depuis la place de la Cité, vous avez donc le Grand Café, et juste après, vous avez une grande maison. Juste après le Grand Café, vous prenez un tout petit peu de recul et vous allez vous cogner la tête contre le mur d'à côté parce que c'est un petit peu étroit. Mm-hmm. Mais le peu de recul que vous aurez vous permettra d'apprécier un beau bâtiment avec une tour d'escalier au centre. C'est une belle bâtisse du 18e avec un bel escalier à l'intérieur comme on va retrouver dans tout ce quartier-là. Belle bâtisse bourgeoise qui appartenait, je crois, au seigneur de Panat, près de Clairvaux, mais qui a aussi été un lieu très important au 19e, parce que c'est de là qu'est parti l'ancien procureur Fualdès, Antoine Bernardin Fualdès, qui habitait là. Et imaginez qu'en 1817, la nuit du 19 au 20 mars, la nuit avait craché son encre, et on a entendu donc descendre les pas lourds du procureur qui était à la retraite et qui allait à un mystérieux rendez-vous. On retrouvera sa canne tout près de la rue Ségui, et puis ça sera le début donc d'une affaire incroyable. On est au 19e et on est là à la recherche, et encore aujourd'hui, des assassins, puisqu'on retrouvera son corps égorgé dans les eaux saumâtres de l'Aveyron le lendemain. Et c'est de ce quartier-là, du haut de la rue, qu'il était parti. Si je continue en essayant d'être moins sanglant, moins sanguinolent, vous verrez, il y a des maisons à pans de bois, donc c'est-à-dire une assise de pierre, de belles pierres de grès rose, rouge, et puis en levant un peu la tête, donc après le pub sur la droite, là, vous verrez, il y a des maisons donc qui sont habillées de, effectivement, d'un assemblage de pièces de bois, qui n'est plus de Moyen-Âge parce que elles auraient souffert comme ça à l'air libre, mais on a continué à en replacer, certainement au 17, 18e, jusqu'à ces derniers temps, et donc ça donne un visage un peu à la fois pierre et bois, donc quelque chose d'assez chaleureux, face à des maisons de pierre plus cossues, avec, si on continue à pousser un peu plus bas, là où vous avez la fameuse tête de cochon. Alors,
oui,
c'est une force.
Oui, je vois.
Voilà, une enseigne un peu caractéristique avec un groin particulier, et vous remarquerez comment l'oreille tombe sur l'œil. Alors, le groin de ce cochon, il y a quelques, vous voyez, jusqu'où le patrimoine va se loger. Le groin de ce cochon avait été emporté par un camion qui était passé, et sont les compagnons qui ont refait le cochon en regardant les photos qui avaient été faites, et c'est une variété de cochon bien particulier qui avait été sculpté, parce qu'il y a un charcutier, la famille Douls-Fontanier, qui est là depuis presque deux siècles. Donc ça veut dire que ce cochon-là marquait déjà cette boutique, et que ce cochon avait été choisi, je vais dire, pour sa particularité, sa spécificité. Donc on l'a refait avec le même soin, le même souci, et Fontanier et Douls sont toujours là. Mm-hmm. Donc c'est aussi un lieu traditionnel. Il y avait autrefois en face, il y avait une boucherie chevaline, dont le slogan était « Si vous avez perdu aux courses, vengez-vous, mangez du cheval ».
À travers ce que vous nous dites, vous avez parlé de quartiers bourgeois.
Oui.
Il y a plusieurs siècles déjà. Ça veut dire que la rue de Bonald a eu un âge d'or qui était lié à quoi? Pourquoi à cet endroit-là en particulier?
Déjà parce que c'était l'entrée de Rodez et que ça intéressait déjà toute une partie de la population ouvrière, artisanale, qui tirait commerce de tous ces voyageurs qui entraient.
Parce que la rue est étroite pour une entrée de ville.
Oui, alors justement, ça posait souci avec l'arrivée incroyable de François Ier. Donc il faut imaginer qu'au XVIe siècle, vous avez le roi de France qui entre par cette porte.
Il était grand, il passait pas sous la porte.
Alors justement, il y a eu un arrêté, c'est-à-dire qu'on avait décidé un peu de retailler les encorbellements, c'est-à-dire les avancées de maisons sur la rue.
D'accord.
Le roi et toute sa cour, il y avait des centaines de gens qui accompagnaient tous les nobles, la bourgeoisie avéronaise, la compagnie l'avait déjà accueilli depuis son arrivée à Rodez, depuis son arrivée dans l'Aveyron. Et donc, il y avait des pages qui l'accompagnaient. Tout a été écrit dans les détails parce que c'était un événement incroyable. Mmh. Figurez-vous qu'il faudra attendre 1933, donc du XVIe siècle à 1933, pour qu'Albert Lebrun, le président de la République Albert Lebrun, viennent à Rodez pour inaugurer la foire exposition. Depuis François Ier, nul autre grand représentant du royaume, de l'État, de la République n'était venu.
Depuis, on s'est rattrapé, parce que là, on a eu deux fois François Hollande en 2-3 ans.
Vous voyez.
Alors, cette rue de Bonald, avant de passer l'autre côté, la rue parallèle,
oui.
Ou pas d'ailleurs, vous allez me dire, la rue de Lamberg. Ce quartier, pour avoir reçu moi des anciens de la rue de Bonal, de la rue de Lemberg, des personnes de 70, 80 à 90 ans, ils étaient amenés ici à nous raconter un petit peu leur vie dans ces rues. Et eux, ce qui nous racontaient beaucoup, c'est que la rue de Bonal, à leur époque, ça a été aussi un quartier, une rue très populaire.
Oui.
Avec des choses qu'on raconte pas toujours.
Peut-être, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de cafés et d'auberges. Il y avait à l'époque, il y avait la caserne, donc qui était alors si on remonte au 19e siècle, qui était tout près de la place de la mairie, la caserne Sainte-Catherine. Et donc effectivement, la proximité des rues et des cafés et des filles de joie, donc devait effectivement animer le quartier. Il y avait aussi une maison close jusque dans les années 40, non pas dans ce quartier, hein, je n'ai pas dit ça,
non.
Mais qui se trouvait rue de la Bullière et qui n'est pas très éloignée. Et il y a eu un temps... là où il y a la maison des compagnons, il y a eu un temps aussi des soldats casernés. Donc, effectivement, les soldats, dès qu'ils ont un petit moment, à l'époque, sortaient et allaient passer un petit moment, donc animés, et ça devait effectivement... Il y avait alors à la fois ces beaux immeubles dont vous parliez, ces hôtels particuliers, et puis aussi des artisans, des ouvriers, quelque chose de très populaire. Et c'est intéressant parce qu'il y avait une mixité sociale, qui était aussi... chacun tirait parti des autres, parce que évidemment les bourgeois, les notables qui habitaient ces beaux hôtels particuliers faisaient travailler toute une partie de la population pour l'entretien des chevaux, pour l'entretien des bâtiments, pour la cuisine, enfin pour tout. Et ça a donc tissé une relation... je me rappelle qu'au 19e, les plus anciens souvenirs, c'était le carrosse du vicomte de Bonal, qui a donné le nom à la rue de Bonal. La maison existe encore, elle est extraordinaire, donc rue de Bonal. Et on se rappelle, les plus anciens souvenirs se rappelaient du carrosse avec des chevaux tout noirs, pommelés, un peu gris-noir, et puis le luxe de cet attelage qui sortait de la rue et qui devait passer avec des cliquetis, qui devait faire lever la tête. C'est-à-dire qu'on avait là, je sais pas, un autre monde qui sortait dans la rue, à côté évidemment de la population plus humble. Mais tout ça vivait ensemble et souffrait parfois des mêmes maladies épidémiques qui traversaient la ville, parce qu'on est tous les mêmes.
Je continuerai bien avec vous des heures et des heures sur la rue de Bonal, mais le temps nous est compté. Alors on passe à rue de Lemberg. L'autre côté, si on peut dire, d'une certaine façon. Déjà, bon, donc, je disais, les rues sont parallèles. Mais non, les rues sont pas vraiment parallèles. Rue de Bonal, rue de Lemberg.
Ouais, je sais pas mesurer, mais bon, c'est intéressant quand même parce que il y a effectivement là deux possibilités d'entrée et donc de sortir. Ces tracés, certainement, sont des tracés d'anciens chemins. Hein. C'est sûr que si on continue à faire des fouilles, on retrouverait là des voies et des entrées intéressantes. On avait retrouvé tout près de du haut de la rue Saint-Cyris, un petit âne sculpté, je crois que c'est Roger Trémouille qui l'avait trouvé, et c'était en fait là une fontaine. Il faut imaginer que tous les chevaux qui tiraient tous ces hommes avaient besoin, après la montée de la rue Saint-Cyris, où il y avait une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Cyris, de boire. Et donc on venait là, déjà il y avait un point d'eau. Il y avait aussi une source qui était tout près de là, une source avec des bulles. Il y a eu une petite station thermale, certainement au début du XVIIIe siècle, et qui a... dû rester encore un siècle, et qui a donné le nom à la rue de la Bullière. Bullière, c'est les bulles, donc cette eau avec un gaz, donc à peu près à hauteur, si les gens voulaient encore chercher, c'est à peu près à hauteur de l'entrée du parking des remparts, face à ces remparts dont je parlais tout à l'heure, donc dans ce quartier-là. Et puis il y avait, si on revient à la rue de Lemberg, il y avait donc deux écoles, l'école Sainte-Agnès, l'école Cambon, qui existe encore, et tout ça faisait qu'il y avait les cris d'enfants, donc les enfants qui sortent, les enfants qui vivent et qui sont une source de vie, d'animation dans le quartier. Et puis dans ce quartier de Lemberg, donc il y avait, c'est le Rhodes aussi, si vous voulez, qui a disparu un petit peu, c'est-à-dire des artisans. Donc les artisans, il y avait l'imprimeur, par exemple, les rails, qui était en haut de la rue, où il y a maintenant le magasin bio La Source. Il y avait là une imprimerie. Il y avait un sellier, un maroquinier, il y a eu un relieur. Donc tous ces travaux de gens qui faisaient, c'était des quartiers qui existaient beaucoup par les mains. Donc aujourd'hui, évidemment, on est tous habillés par des choses qui sont fabriquées dans de lointains pays. Mais la notion de travail fait chez la Véronée est importante, comme dans toutes les régions de France. Mais il y avait ce fameux savoir-faire et cette expérience. Il y a toujours, et c'est le lien à faire aujourd'hui avec ces artisans qui se sont installés et qui sont en fait dépositaires d'une sorte de filiation, de mémoire qui existait aussi, d'un savoir-faire. Alors, c'est plus les mêmes savoir-faire peut-être. On fabrique plus les chaussures, mais on peut continuer à les réparer. Mais il y avait donc toutes ces populations. Je pense à Monsieur Fraisse, qui était un chausseur et qui avait deux boutiques, une rue de Bonal et une autre en haut de la rue du Terral. Alors, si vous levez la tête, que vous allez en haut de la rue du Terral, elle va déboucher sur la place de la Cité. Juste avant qu'elle ne débouche, levez la tête. Vous avez derrière vous, alors la place est Macalvée. Il y a juste quelques arbres et c'est plutôt un parking. Mais si vous levez la tête, en face, vous verrez, il y a toute une mosaïque, une faïence où il y a marqué Paul Fraisse.
C'était une grande publicité de sa boutique de
chausseurs et de sabotiers. Il faisait aussi les sabots, parce que tout le monde rural... Important, parce que Rodez, c'était un peu la capitale de ce grand pays de paysans. Donc, les foires et marchés à Rodez, c'était pas rien. Et donc, on fabriquait des sabots. Il y avait des magasins aussi, on faisait des objets religieux. Tout le monde, évidemment, à Rodez, se rappelle Madame Couffin, qui avait tout près de la rue de Bonal, de la place de la Cité, encore en haut de la rue du Terral. Elle vendait, donc, ou elle louait des aubes, des objets religieux, et il y avait donc toutes ces processions et cette ferveur religieuse qui était très importante à Rodez. Il y avait 3 séminaires à Rodez, 2000 séminaristes il y a un peu plus d'un siècle. Puis il y avait aussi presque autant de soldats, vous voyez, et puis beaucoup d'élèves, des frères des écoles chrétiennes, des enfants qui allaient dans tous ces établissements. Donc il y avait une population très brassée. Jusqu'à avoir, il y a plus de 100 ans, 400 000 habitants, plus de 400 000 habitants en Aveyron. Donc il y avait beaucoup d'effervescence de quartier et les gens ne roulaient pas beaucoup en voiture. Donc on était dans les rues. Alors les rues de Lamberg et la rue de Bonal, c'était des rues extrêmement animées. Moi je me rappelle enfant avoir vu des chaises qui étaient devant les maisons. Alors ça veut dire que les gens n'avaient pas beaucoup la télé, ou s'ils l'avaient, les anciens continuaient à, une fois le repas fini, à s'asseoir dehors et à parler. Ça paraît incroyable, mais c'est pas, pourtant je suis pas du Moyen-Âge, j'ai juste 50 ans, mais c'est juste pour dire qu'il y avait, vous savez, dans ces mois de juin, juillet, on sent que un doux froufrou vous montonnez, des fenaisons autour de Rodez, et on a envie de goûter, donc, à l'été, et dans ces rues, les gens sortaient, on entendait les rires des enfants, il y a encore des places, des petites places où les enfants jouaient, mais encore, il y a des enfants qui jouent, rien n'est fini, heureusement, tant qu'il y a des enfants, tout est encore possible.
Ce que vous évoquez, donc, c'est souvenirs personnels, donc ça m'amène à penser que cette grosse évolution, ces grands changements sont finalement assez récents. À quoi vous les attribuez, vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je pense qu'il s'est passé, déjà, à la fin du 19e, il y a eu une exode rurale massive qui a été je fais très court, le phylloxéra, donc, qui dévore les vignes et toute une partie de l'économie aveyronnaise s'effondre. Il y avait beaucoup de population. Une grande partie, donc, va partir à Paris, dans ce qu'on appelle les CHR, les cafés, hôtels, restaurants, pour, travailler comme porteur d'eau, de charbon, rejoindre les bougnias d'Auvergne et puis être à l'origine de grandes affaires aveyronnaises à Paris qu'ils vont reprendre. Je citerai juste 3, le Flore, les deux Magots, la brasserie Lippe. Sont des affaires reprises par des Aveyronnais. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire opiniâtreté, économie, le sens du travail, le sens de la parole. Et c'est vrai que l'Aveyron est très présente à Paris. Au détriment de l'Aveyron elle-même, qui s'est retrouvée un peu exsangue. Et puis, évidemment, la grande hémorragie, c'est la guerre de 14-18, donc qui va, alors évidemment c'est aussi vrai dans beaucoup d'autres campagnes de France et d'ailleurs, mais ça va donc enlever une grande partie de la population. Après, il y a aussi peut-être un peu le recul de l'Église, et puis le recul de l'Église, ça veut dire peut-être donc... moins d'élèves donc chez les frères des écoles chrétiennes, même si à Rodez leur implantation est encore très très présente. Et puis il y a eu l'explosion que j'ai connue des années 70, où sont apparus les premiers grands supermarchés. C'est incroyable, qui ont apparu aux portes de Rodez et qui ont eu, alors ça paraît être d'une affligeante banalité, mais qui ont eu quand même pour impact de voir pas mal de choses se fermer. Et puis, il y a l'empire de la voiture qui a été extrêmement importante à Rodez. Il y a des quartiers à Rodez, comme la ville a été bâtie sur une hauteur. Donc, il y a aussi une chose dont j'ai pas parlé, je suis très bavard, c'est le choix d'avoir placé la gare dans un endroit qui est tout à fait inopportun, en bas de Rodez. Donc, alors que il y a eu un projet à Rodez en 1929 de la gare en bas de l'avenue Victor Hugo. et qui aurait déversé les commerces, enfin toute l'alimentation qui venait par la voie ferrée de matériaux, de fournitures, etc. Et puis de population, ça aurait été peut-être quelque chose qui aurait pu permettre à la ville d'arriver à passer plus facilement peut-être la concurrence avec des villes qui sont positionnées. Alors évidemment, il y a Toulouse et Montpellier, mais Rodez à un moment a tenu la dragée haute dans le commerce du tissu, des draps. Il y avait 11-12 grossistes en tissu, en drap, en étoffe, en laine à Rodez. Et j'ai une commande de tissu au magasin Mer Blanc qui existe encore, oui, qui s'appelait autrefois Gobert. Une commande de 11 000 mètres de pièces de tissu. Vous calculerez combien ça fait en kilomètres. Et donc d'une grande maison du nord de la France qui avait commandé à cette grande maison 11 000 mètres de tissu. Ça paraît incroyable, mais Rodez à un moment... Vous allez me dire, Rodez était un peu enclavé, perdu. Mais Rodez est un carrefour géographique intéressant où beaucoup de routes du nord, du sud venaient passer par là depuis le temps des Romains. Et il y avait là un point, un carrefour commercial stratégique très important. Et Rodez l'a tenu pendant un moment avant, après de commencer à le perdre. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question.
C'est parfait. On va enchaîner et terminer déjà, malheureusement, avec vous, Jean-Philippe Savignoni, avec la place de la Cité. Alors, la place de la Cité, tiens, vous parlez de voiture actuellement, oui, ça sert pas mal de parking. C'est aussi la place du marché, hein. Mais l'origine de cette place de la Cité?
Ça s'appelait la rue du Marché Neuf.
D'accord.
Voilà, donc ça a été... Alors, il y a eu deux pôles de pouvoir à Rodez qui vont faire que la ville va se développer en deux parties distinctes. Le bourg avec le seigneur, le comte, qui avait donc le quartier de la place du bourg, où il y avait un château comtal qui était place de l'Aulnay, et l'évêque... Donc un pouvoir ecclésiastique qui était donc quartier cathédral avec donc sa place, j'allais dire, qui était la place du Marché Neuf, qui deviendra la place de la Cité. Ça veut dire que là, il y avait un bâtiment, là où il y a l'office de tourisme, ou à côté de l'office de tourisme, il y avait là donc un bâtiment où siégeait, j'allais dire, l'autorité, le pouvoir de l'évêque, qui avait... à la fois comme charge d'administrer, on va dire, le clergé, mais aussi il était seigneur de la Cité, c'est-à-dire il faisait justice, il rendait justice. Et il y avait aussi dans le même bâtiment les poids et mesures. Les poids et mesures, vous savez, jusqu'à la Révolution, chaque ville, chaque province avait des mesures, des poids différents. Et donc on venait contrôler ce qui se vendait avec les poids officiels où il y avait une personne qui était chargée par la commune de surveiller les transactions qui se faisaient là. Et de l'autre côté, rue de Sonac, il y avait là la maison de la commune, qu'on appelait la maison de la Costarie, c'est-à-dire qu'il y avait là la mairie de la ville.
D'accord.
Alors donc il y a eu, alors là, ça a un peu glissé, il y avait le pouvoir de l'évêque, mais en même temps il y avait le contre-pouvoir, entre guillemets, qui étaient les consuls, ce qu'on appellerait les conseillers municipaux, voilà, qui siégeaient avec le pouvoir de l'évêque. Et j'aurais été heureux de vous raconter, comme si je l'avais vu, mais je l'ai lu, l'arrivée sur cette place au 19e siècle d'une révolution, c'est les eaux de Vorse. Imaginez que Rodez, depuis 2000 ans, avait toujours un problème d'approvisionnement en eau. Dans ce quartier Amberg et rue de Bonal, on peut encore retrouver des puits. Dès qu'on creuse à 5 ou 6 mètres, on retrouve la nappe phréatique, y compris dans la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Mais cette eau ne suffisait pas. Et on va trouver une solution, c'est-à-dire qu'on va retrouver les restes d'un aqueduc romain qui allait jusqu'à Baraqueville, Vorse, et on va au 19e siècle le réhabiliter. Et ces sources vont arriver sur la place de la Cité. Alors l'évêque, une fontaine majestueuse avec, je sais pas, peut-être une vingtaine donc de jets vont surgir avec de la musique, des chants. On accueille l'hôte majeur après François Ier qui était l'eau. L'eau comme la source vraiment de vie. Et on voyait couler, on entendait couler cette magie qui était la magie de l'eau. La même magie que les Romains avaient entendu couler il y a 2000 ans et avaient fait venir. Ça ne suffira plus quelque temps après. Il faudra donc d'autres mers pour aller chercher des eaux, du Lévézou et de l'Aubrac. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais la place de la Cité n'aura plus sa grande, grande, grande fontaine. Par contre, à la place, vous avez Monseigneur Affre, oui, archevêque de Paris, qui va, vous le savez, sur les barricades, donc, essayer d'arrêter les tirs et qui va recevoir donc un projectile et mourir donc sur les barricades à Paris. Et il était donc un enfant de l'Aveyron, un enfant donc du sud d'Aveyron, mais la place de la Cité a voulu honorer sa mémoire et donc a dressé cette grande statue sur cette place.
Allez, on poursuivrait bien avec vous, Jean-Philippe Savignoni sur CFM. On aura peut-être d'autres occasions, j'espère. Mais bon, du coup, on va renvoyer vers vos rendez-vous de compteur du patrimoine, hein, de guide conférencier. Je sais que bon, on arrive un peu à la fin de la saison, mais il y a un Laissez-vous compter qui s'annonce ce jeudi.
Oui, c'est Laissez-vous compter la commune de Luc.
Oui.
Donc, moi, je travaille au service du patrimoine de Rodez Agglomération avec mes autres collègues. Nous faisons des visites et des conférences. Alors, on a une conférence donc à Luc. C'est à 20h30. C'est gratuit. Il faut venir parce qu'il y a bien des choses insoupçonnées à Luc.
Ah,
dans
bah,
toutes
oui,
les petites
oui.
communes, il y a des histoires qui se racontent et qu'on vient collecter. Puis les gens participent aussi. Donc, c'est très animé. C'est pas une conférence. C'est très interactif, on écoute aussi, on vient apprendre nous aussi. On ne sait pas grand-chose, vous savez, on cherche. Mais donc, il y a aussi, j'ai plus les dates, il faudra regarder sur l'agenda de Rodez Agglomération, vous regarderez, est annoncé en juin une petite randonnée à pied, la découverte de, de l'église fortifiée d'Ignières. Alors, on peut pas trop se promener en temps normal dans les parties hautes de l'église. Et là, on pourra monter et voir un peu les refuges pour les populations pour se protéger de l'attaque anglaise au XIVe siècle. Et puis, on a une très, très belle annonciation qui était à la cathédrale et qui a été cachée à la Révolution et qui est restée à l'église d'Ignières. On fera une petite randonnée à pied. Et puis, il y a une dernière petite balade à pied aussi, je crois. On va partir du coin de Planèse, je crois, pour rejoindre la Primaube par des petits chemins, voir le château de Planèse. Enfin, on va cheminer et parler patrimoine sur les chemins. On s'arrêtera et on boira un petit verre.
Avec les beaux jours et les détails, le calendrier exact et précis, les rendez-vous, vous les retrouvez sur le site internet hein, de Rodez Agglomération. Vous verrez, c'est très bien fait. Il y a un petit onglet agenda, j'y vais régulièrement. Vous cliquez dessus et vous avez le programme complet et les horaires. Merci beaucoup Jean-Philippe Savignoni d'avoir été avec nous.
Merci.
Aujourd'hui pour ma rue dans tous ses états, la rue de Lamberg, la rue de Bonal, la place de la Cité. On a fait qu'effleurer les sujets. Hein. Le mieux, c'est évidemment de venir plus directement auprès de vous à travers les conférences et les rendez-vous que vous nous donnez tout au long de l'année. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et une bonne fin de journée en CFM.